dans Midi Pile avec Maître Charles Quentin. 95.7 Kick.
Pas de changement, pas d'agrément. La première fois qu'on le fait à une autre heure, du moins aussi de bonne heure, il y a peut-être des gens qui nous écoutent autour de 11h30 et qui ont même jamais entendu la chronique judiciaire du vendredi. Là, on fait ça jeudi parce que demain, c'est vendredi saint. Il y a quand même une équipe qui fera l'ensemble de la programmation régulière là sur nos ondes dans la journée de demain, mais nous n'y serons pas. Donc, Maître Canté ne sera pas là pour sa chronique judiciaire. Et Fred, hier, tu as partagé sur les médias sociaux quelque chose qui a dit... Qui a fait dire à Maître Quentin, il faut que je sois là jeudi pour en parler. Et c'est le cas de Yolande Ouellet.
Au mois d'avril 2000, écoute, ça fait une vingtaine d'années au moment où on se parle, la justice québécoise a été le théâtre de la représentation d'une personne assez spéciale qui aura marqué la justice d'une bien humble manière. Mais d'une plus grande manière encore, les réseaux sociaux. Et lorsque j'ai évoqué le terme ou le nom de Yolande Ouellet, certains ont allumé tout de suite. Marc Diquet était particulièrement hilar. D'autres se sont dit « Yolande qui? » Alors, réécoutez ça. YouTube a explosé à de nombreuses reprises grâce à cette dame.
Yolande Ouellet a été accusée au palais de justice de Trois-Rivières de conduite dangereuse et de délit de fuite. Samedi, au coin des rues Deschenaux et Whitehead, son véhicule est entré en collision avec une autre voiture. Selon l'accusation, Mme Ouellet a foncé à trois autres reprises sur l'automobile. Une fois descendue de voiture, l'autre conducteur a juste eu le temps de s'esquiver avant qu'elle ne fasse sur lui.
C'est un petit baveux qui ne partageait pas le chemin. Il avait un petit char bleu marin, puis il ne voulait pas me faire passer. Alors, il est rentré dans mon auto. Puis moi, j'ai répliqué, j'ai rentré dans la scène.
Deux témoins de la scène qui ont voulu intervenir ont aussi été menacés par la conductrice. Criant qu'elle n'est coupable de rien, Yolande Ouellet affirme même que c'est elle, la victime.
Non, c'est lui. Vous comprenez ce que vous voulez ou ce qu'il a dit? Où est-ce qu'il est, le petit bonhomme? Il devrait être ici le matin, lui. Puis il y en avait deux qui le suivaient en arrière, c'est ces deux chums. Deux bonnes aussi. Il y en a trois qui sont impliquées là-dedans. Puis eux autres, ils m'ont barré le chemin avec le petit char gris. Puis je pouvais rentrer dedans.
Elle a plaidé non coupable.
Ah, c'est un classique.
C'est un classique du web. Puis on va revenir là-dessus sur certains classiques qui auront marqué le YouTube de part. C'est à nous autres, ces beaux produits-là. Chose certaine, est-ce que la dame à l'époque, en 2000, dont on célèbre le 20e anniversaire de cause, aurait eu une défense, quitte à avoir émané un arrêt Yolande? Chose certaine, pour en avoir le cœur net, on va aller rejoindre Maître Charles Quentin. Bonjour Charles.
Bonjour.
Je sais que tu n'as rarement refusé, tu t'es rarement défilé à représenter et défendre des gens. Aurais-tu accepté de défendre Yolande Ouellet?
Absolument.
Maintenant...
C'est tout à fait charmant.
Écoutez, est-ce que c'est la légitime défense? C'est quoi?
Écoutez, il y a un vieux dicton qui dit qu'on ne peut pas se faire justice soi-même. De ce que j'ai entendu au préalable, madame a été victime. Vous comprenez? Et lorsqu'on est victime, on peut répliquer avec une force proportionnelle.
Aha.
Mais là, d'utiliser son véhicule automobile pour se faire justice, à mon avis, c'est un peu une force que je vais qualifier de déraisonnable. Mais à l'écoute de votre document sonore, je me demande si je n'aurais pas demandé une non-responsabilité criminelle.
Ça, c'est pas impossible. Et d'ailleurs, je ne sais pas si, de fois de temps en temps, vous en parlez avec vos clients, de ne pas accorder, si possible, et là, je prêche contre ma paroisse, là, parce que nous autres, on trouve que c'est du bonbon. Idéalement, quand votre cause est limite un peu, donnez pas trop d'entrevues avec les médias rapidement.
Ça, c'est une consigne universelle. Ne jamais offrir une version publique qui peut servir l'adversaire, on va l'appeler comme ça, là, ou la partie adverse.
Se garder,
parce qu'il est clair à l'audio que cette dame-là a livré une version non seulement naïve et candide, mais inculpatoire.
Et la suite des choses fait que cette dame-là, qui a été impliquée dans une histoire de rage au volant, avait une enquête préliminaire à tout ça. Je sais que ça a été reporté par la suite. Est-ce qu'on a su finalement comment ça avait fini l'histoire de Yolande Ouellette? Parce que les rumeurs disent qu'elle est décédée en 2012. Par contre, on n'a jamais su si elle a été libre de toute accusation ou si elle a fait du temps dur dans un quelconque établissement carcéral.
La conclusion, il n'y a pas eu de temps, il n'y a pas eu de prison. La conclusion, c'est qu'elle aurait été condamnée à 250 $ d'amende et une probation de 3 ans. Maintenant, est-ce que c'est au terme d'un procès ou sur un plaidoyer de culpabilité? J'ose croire que ce serait sur un plaidoyer de culpabilité si madame fut alors accompagnée par un avocat. Parce que je vois pas nécessairement l'utilité de faire un procès dans ce dossier-là. A fortiori, si on sait que ça va se régler par une amende et une sentence non privative de liberté.
Mais d'un autre côté...
J'ai en primeur le nom des trois victimes.
Allez-y.
Bombe Desjardins, Bombe Marley et Bombe Binette.
Seigneur, Seigneur Jésus. Mais évidemment, on recommande. Puis les gens qui n'ont jamais vu ça, tapez Yolande Ouellette sur YouTube. Ça fait effectivement 20 ans, une vingtaine d'années.
J'ai de la sympathie, moi, pour cette madame-là.
Pourquoi?
J'écoute son récit, puis je me dis, à un certain âge, puis ses victimes, dans un certain sens, sont plus jeunes. Ça s'est senti intimidé à quelconque moment. Ça se peut qu'elle ait disjoncté.
Ça se peut. Tout est possible dans ce monde. Donc, vous savez, des dossiers comme Mme Ouellette, là, c'est uniquement parce qu'on l'a sur vidéo puis sur YouTube, mais à toutes les semaines, vous avez des cas semblables dans nos palais de justice.
Mais on voit le gars, là, que l'agent de sécurité à Sherbrooke, là, l'histoire du Walmart, finalement, quand on apprend plus l'histoire plus en profondeur, on comprend que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Là.
Toujours deux côtés à une médaille, et on voit parfaitement à travers cet événement-là que fixer ça devant juge et jury, puis je suis pas certain qu'ils allaient assister à une condamnation.
D'ailleurs, vous êtes avocat, la justice en temps de crise, vous vouliez nous amener d'autres cas également, ça peut être un peu spécial?
Oui, ben moi j'ai un client qui est célèbre, que je ne nommerai pas pour me laisser reposer en paix. C'était un de mes premiers clients qui avait déjà même fait du pénitencier avec Jacques Mestrine. Oh. C'est rien que pour vous dire, là. Et monsieur, je partais pour le nommer, à tous les automnes, le monsieur, quand le temps froid prenait, lançait une brique dans un commerce régional. Des fois, c'est un métro, Richelieu, des fois, c'est un salon funéraire, j'ai déjà vu aussi un club de danseuses. Il lançait une brique dans la fenêtre, puis il partait pour 6 mois de détention. C'est la sentence qu'il demandait lui-même, pour un méfait quand même important. Et il sortait au bout de 4 mois. Fait qu'il faisait ça en novembre, puis il sortait au mois de mars. Lui, il disait que c'était parfait, que ça le mettait logé, nourri, et que c'était au service des citoyens qui dégageaient le pavé pour s'en aller en détention. En temps de mini-crise, parce que c'était à ce moment-là, par des conditions météorologiques qui étaient défavorables, mais plus près de nous, le déluge de 1996... J'ai un client qui a été interpellé pour une introduction par effraction au lac Kenogami au moment où les domiciles étaient vacants. Fait qu'on a appelé la police. On a fait le 911 et les personnes qui étaient dans le domicile se sont réfugiées chez le voisin. Et l'individu, que je ne nommerai pas non plus parce que c'est pas nécessaire, est sorti du domicile. Quand la police est arrivée, il est sorti du domicile avec une couverture sur le dos. Et il y avait un des enfants de la famille dans ses bras. Il a demandé à ce moment-là d'aller à l'urgence parce que l'enfant était possiblement malade. Fait qu'on lui a offert un livre jusqu'à l'hôpital. On n'a jamais pu l'accuser directement pour l'introduction par effraction.
Mais voyons
comme
donc.
Comme quoi l'ingéniosité fait souvent face, a souvent sa place en pareilles circonstances. Mais vous savez, quand il y a eu le déluge dans les années 96, je me souviens très bien qu'à ce moment-là, on avait eu une dispense de cours pour quelques semaines et les clients qui étaient très opportunistes, jusqu'au mois de décembre, ne pouvaient se présenter à la cour prétextant le déluge.
Ah ouais?
C'était quoi le motif? Ils disaient qu'il avait été inondé ou?
Exactement.
Okay.
Et vous savez, des opportunistes, là, ça a beaucoup le sens élastique du sens du devoir. Donc, j'espère que la présente crise ne fera pas place à de pareils délais. Et on sait qu'actuellement, là, la justice est excessivement tolérante envers les personnes qui ne se présentent pas à la cour. De toute façon, même nous, comme avocats, on n'a pratiquement pas l'interdiction, mais sauf motif d'urgence justifié avec le juge coordonnateur, on ne peut se présenter au palais de justice actuellement. Donc, on fait du télétravail. Mon téléphone n'a jamais été aussi rouge.
Et des fois, quand ça travaille trop, un téléphone, ça devient chaud aussi. Ça, c'est gastroactif. Tantôt, le docteur Christian Laberge disait à Isabelle Maréchal que ça ne lui surprendrait pas vraiment qu'éventuellement, on reprenne les activités, mais tout le monde avec un masque. Imaginez-vous ça, tout le monde avec un masque en salle de cours.
C'est spécial, hein?
Ça serait, oui, ça serait...
Ben, écoutez, il n'y a plus rien qui va nous surprendre, mais c'est fort possible. Au surplus, là, si on plaide, si on nous demande de plaider dans les prochaines semaines, et on a le contexte de proximité, vous savez, quand je plaide, moi, j'ai devant moi une greffière à 2 pieds et demi.
C'est ça.
J'ai souvent un témoin qui est à 18 à 24 pouces. J'ai le procureur de la couronne qui, lui, est à 2 mètres. Souvent, on s'en approche quand on veut se partager des documents ou quand on veut demander quelque chose. Le juge, lui, est relativement à l'abri, mais même là. Et le détenu derrière moi, il est à quelques pieds. Donc, évidemment, un masque ne pourrait pas nuire, ça, c'est clair.
Remarque, Maître Quentin, justement, je vous parlais de ça, c'est intéressant. Là, on bifurque vers le décorum de la justice présentement, mais c'est mauditement intéressant. On voit que même les commis de dépanneurs sont rendus avec des plexiglas en avant d'eux. Ça se pourrait-tu qu'on vous ayez un peu le même décorum éventuellement en salle de cour, c'est-à-dire des plats, des feuilles de plexiglas à différents endroits stratégiques?
Ce serait faisable. Ce serait parfaitement faisable parce que pour les gens qui nous écoutent, il faut comprendre que la greffière est entre le procureur de la défense et le procureur de la couronne. Donc, si on mettait un plexiglas de plus ou moins 1 mètre tout le tour de Mme la greffière, ça pourrait minimalement la protéger ou le protéger, dépendamment de la personne. Et même chose pour le juge. Mais vous comprendrez que l'avocat de la défense n'ait pas de plexiglas devant lui. Là, on ne fera pas pleurer personne. Hein?
Hey, avant le gros kit, c'est la fin de semaine Pascal. Ça va être différent pour plusieurs. Les célébrations ne seront pas pareilles. Puis en ouverture, je me disais tantôt, il y a encore quelques petits spots pour l'autre Pâques. Puis la distanciation sociale sera difficile à faire à ces endroits-là, s'il y a des attroupements. À Chipcha, c'est rendu non pas tard. Mais est-ce que vous avez des souvenirs de ça, d'être allé à l'autre Pâques dans le temps? Tout le monde allait là?
Ben oui. C'est un rendez-vous pascal, très prisé là, dans le secteur de Chipcha. Puis, hey, on en faisait des provisions, puis ça devenait de l'eau estivale à un moment donné. Mais c'était surtout très intéressant pour, comme tu l'as mentionné, comme lieu de rassemblement. Vous savez, à l'âge qu'on avait à ce moment-là, on était fringants. Le printemps, là, ça s'arrivait avec les séries éliminatoires. D'ailleurs, aujourd'hui, commenceraient les séries éliminatoires.
C'est vrai.
Normalement, c'est première semaine d'avril. Donc, c'était souvent la période où les coupes se séparaient.
Ah.
Parce qu'à cause des séries de hockey, moi, je me souviens que j'ai laissé quelques blondes, mais les blondes m'ont laissé parce que c'était une période très intensive d'écoute de hockey continue, là.
Puis après ça,
ça faisait dans un sous-sol chez nos copains de la rue Bégin, une rue que tu connais très bien, Simon.
Absolument.
Tout près du cégep de Jonquière, chez mon ami Régis Tremblay, avec Sylvain Saint-Pierre et Daniel Tremblay et Claude Perron, pour ne pas les nommer. Puis écoutez, c'est tout du monde qui écoute encore le hockey, puis on est relativement en deuil présentement. Et quoi de pire que de me dire que je ne pourrais aller cueillir mon autre part? J'en suis renversé.
Ben Quentin, merci beaucoup. Bonne fin de semaine.
Merci.